en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonsoir, à n'en pas douter, c'est l'un des romans les plus émouvants de la rentrée. J'avoue d'ailleurs avoir versé quelques larmes en le lisant, tant son auteur sait, à travers une langue poétique, musicale et envoûtante, nous toucher au cœur de nos âmes. Car il est bien question d'âme dans cette œuvre pleine de charme et de délicatesse, qui raconte sinon une guérison de l'âme, du moins une résilience, une réparation, une reconstruction, à travers une force capable de défier la mort, la haine et le temps, la force de l'art, celle de la littérature et de la musique. Âme brisée d'Akira Mizubayashi est paru aux éditions Gallimard et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Akira Mizubayashi.
Bonjour.
La musique que nous entendons, c'est le début du Quatuor à cordes numéro 13 de Schubert. Nous sommes le dimanche 6 novembre 1938 à Tokyo, au Japon, dans une salle du centre culturel municipal. Et c'est ce morceau que répète un quatuor qui n'est pas tout à fait comme les autres. Dans ce quatuor, il y a Yu, le père de votre narrateur. Lui, il est japonais. Et les trois autres musiciens, eux, sont chinois. Ils sont réunis par l'amour de la musique, mais dans le contexte politique de 1938... Un Japonais qui joue avec des Chinois, ça peut pas se faire. C'est très suspect pour les autorités.
Et oui, à l'époque, le Japon était en guerre contre la Chine. C'était en plein période de la guerre de 15 ans. Depuis le début de cette guerre, évidemment, il y avait moins de Chinois à Tokyo, mais il en restait quand même. Il y avait des jeunes étudiants chinois qui ont eu le courage de rester malgré la situation dangereuse. Et j'ai imaginé, une histoire d'amitié entre un japonais qui n'est pas complètement enfermé dans cette espèce de fanatisme qui a fait tant de mal.
Et de nationalisme.
Oui. J'ai imaginé la présence d'un japonais, un professeur d'anglais d'une quarantaine d'années et qui par ailleurs ose apprendre le français avec un journaliste français correspondant. J'ai pensé au Monde, mais voilà, il y avait des correspondants étrangers. Et donc c'est un japonais qui est ouvert à d'autres horizons que celui étroitement fermé de l'horizon japonais et il a trois amis chinois, une chinoise et deux chinois. Ils ont décidé de faire la musique de chambre ensemble et depuis quelque temps ils répètent ce 13e quatuor de Schubert nommé Rosamunde. Oui.
La répétition est interrompue par l'irruption brutale d'un groupe de soldats et voici comment le raconte Ray. Ray, c'est votre narrateur, c'est le fils de Yu qui est caché dans un placard. Nous sommes page 16 de votre roman.
Une tête d'homme coiffée d'un képi de la même couleur que l'uniforme apparaît devant mes yeux. À contre-jour, elle est voilée d'une ombre épaisse. Du bord du képi descend par derrière jusqu'aux épaules une pièce d'étoffe également kaki. Les yeux seuls brillent comme ceux d'une chatte qui guette dans les ténèbres. Mes yeux, maintenant grands ouverts, rencontrent les siens. Je crois pouvoir reconnaître un discret sourire qui s'esquisse et qui se répand autour des yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire mal? Il va me sortir de force de cette cachette? Je me blottis davantage sur moi-même. Soudain, il se penche de côté, se baisse un peu, puis il se relève aussitôt avec, dans la main, le violon abîmé qu'il a posé sans doute il y a quelques instants sur le banc juste à côté de l'armoire où je suis réfugié. Tout à coup se fait entendre une voix d'homme forte et pressante se rapprochant rapidement. « Kurokami, Kurokami !» Machinalement, il tourne la tête comme s'il se demandait d'où venait exactement la voix, comme s'il cherchait à identifier l'auteur de l'appel, tandis qu'une crispation nerveuse parcourt son visage. Il me tend, sans me dire, le violon cassé, presque aplati, qui, avec ses quatre cordes dessinant un contour bombé, revêt dans l'obscurité l'allure d'un petit animal agonisant. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'hésite, mais finalement je prends l'instrument endommagé craintivement avec mes deux mains.
Et c'est cet événement dramatique, ce violon brisé que Ray va recevoir, qui vont changer le destin, qui vont en quelque sorte donner le la de la vie de ce petit Ray qui va grandir, qui va être recueilli par l'ami français de son père, qui lui a appris le français, qui va venir en France et épouser la culture française. Alors franchement, Akira Mizubayashi, un japonais dont le père a eu des ennuis avec des nationalistes japonais, qui a appris le français, qui a quitté son pays pour la France, qui a deux passions, la littérature et la musique, ça fait tout de suite penser à un certain Akira Mizubayashi, non ?
Oui, je me suis projeté un petit peu dans ce personnage, mais tout a été inventé. Il n'y a rien d'autobiographique au niveau de l'histoire que je raconte. Évidemment, il y a quelques indices, qui font penser à mon propre parcours, mais voilà, c'est... Quand on écrit, c'est souvent comme ça, non ?
Vous écoutiez avec votre père de la musique occidentale, de la musique classique ?
J'écoutais de la musique seul, je crois. Mon père était mélomane, mais je crois qu'il l'est devenu un peu pour des raisons politiques, pour s'insurger contre cette espèce de nationalisme exacerbé et pour épouser quelque chose d'autre.
La culture occidentale, c'était une forme d'acte de résistance.
Ah oui, c'était totalement vrai de sa part. Lui d'ailleurs, pendant cette période difficile, c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire quand il était logé dans l'auberge qui était dirigée par sa famille, quand il rentrait de son travail, il se cachait dans une espèce de d'armoire, disons, un placard encastré dans le mur pour écouter de la musique de Beethoven. Et il fallait pas que les autres puissent entendre cette musique parce que c'était plus ou moins prohibé à l'époque. C'était la musique de l'ennemi, etc. Donc, de sa part, écouter de la musique occidentale et puis lire des livres. Par exemple, mon père était un grand admirateur de Victor Hugo. Et c'était un acte de résistance de sa part.
Alors, littérature et musique sont réellement les deux compagnons du lecteur, hein, d'un bout à l'autre de ce roman Âme brisée. Et autant, quand on vous lit, on a l'impression que la musique rapproche les gens, autant on a l'impression aussi en vous lisant que la langue a plutôt tendance à les éloigner, à les séparer parce qu'elle les enferme, et notamment la langue japonaise. On peut dire ça comme ça ?
Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que j'ai imaginé une conversation entre le personnage du père, Yu Mizusawa, avec ses trois amis chinois. Évidemment, ça se passe au Japon et ce sont des étudiants chinois qui font des études au Japon, donc la conversation se fait en japonais. Et il y a quelque chose qui gêne le Yu Mizusawa, donc le professeur d'anglais, et donc il essaye de résoudre ce problème, c'est-à-dire lui il est plus âgé que les étudiants chinois, et donc il y a tout de suite une question de respect qui s'impose, et donc les Chinois sont un peu trop polis, et puis donc il y a une atmosphère et puis une réalité linguistique qui gêne le personnage de père, et donc il leur propose de parler autrement, d'être ensemble autrement, et c'est à ce moment-là que la connaissance du français acquise auprès de son ami Philippe, qui l'oriente, d'après, en français ça se passe comme ça, et en japonais ça se passe pas comme ça, mais si on essayait de parler autrement, si on essayait d'être ensemble autrement. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je ressens en naviguant entre le japonais et le français. Donc
la langue française est plus égalitaire, unie davantage,
plus égalitaire,
et fait sauter les barrières.
Voilà, ça c'est absolument sûr et certain, oui.
Alors c'est Jean-Baptiste Pontalis, je crois, que vous avez traduit, Daniel Pénac aussi, qui vous ont incité à écrire en français, Akira Mizubayashi. Le japonais est votre langue maternelle, on le sait, et le français, vous dites que c'est votre langue paternelle. Comment est-ce que faut-il comprendre ce mot paternel ?
Alors, l'expression langue paternelle, ce n'est pas une expression pas du tout courante.
Non. Sauf chez vous.
Voilà, je me suis dit, bon, la langue japonaise, c'est ma langue d'origine, ma langue maternelle, il n'y a pas de doute. Et c'est quelque chose, c'est une langue qui se parle en moi, que je ne peux pas effacer. Mais il se trouve que j'ai appris avec passion le français et... voilà, ça fait plus de 45 ans, presque 50 ans que j'apprends ce français, la langue française, et au fil des années, il y a un sentiment de proximité qui s'est installé en moi, et je parle français, j'écris en français, et puis même je rêve même en français. Donc comment exprimer ce sentiment de proximité, puisqu'il y a langue maternelle, bon, il faut inventer une autre langue.
Mais est-ce que vous auriez pu écrire à me briser en japonais?
Je ne sais pas.
Vous êtes même pas posé la question.
Non, je me suis pas posé la question. Je me suis lancé tout de suite dans l'écriture en français. Et puis il y a peut-être quelque chose qu'il faut que j'ajoute à ce que je viens de dire à propos de la notion de langue paternelle. C'est que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père, c'était quelqu'un tout en vivant pendant cette période extrêmement difficile de la guerre de 15 ans. C'est quelqu'un qui a réussi à tenir à distance sa propre culture et le nationalisme japonais exacerbé, et voilà, prendre à distance, tenir à distance sa propre culture, et puis considérer le pays où on est né comme quelque chose de, voilà, une manière de relativiser son pays, sa propre culture. C'est quelque chose que j'ai reçu de mon père.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Akira Mizubayashi qui publie Âme brisée, son nouveau roman chez Gallimard, un livre qui est bâti comme ce quatuor à cordes de Schubert, un quatre parties, Allegro Manon Troppo, Andante, Menuetto et Allegro Moderato. Est-ce qu'en écrivant ce livre, vous avez écrit une partition?
Je ne sais pas, mais essayer d'être musical au niveau des phrases et au niveau de la construction du livre, c'est un souci constant chez moi. Oui, j'ai peut-être une espèce de complexe d'infériorité à l'égard des musiciens et des compositeurs qui arrivent à exprimer des choses absolument merveilleuses, et avec mes moyens j'essaye d'en faire autant.
Donc musicalité de la langue, vous faites aussi très attention au rythme, hein. Il y a des chapitres assez long, il y a des chapitres aussi beaucoup plus courts,
voilà, oui,
et
oui.
S'instaure effectivement une atmosphère.
Il y a un chapitre avec une seule phrase.
Avec une seule phrase,
oui.
Effectivement. Comment est-ce que vous avez justement construit cette rythmique de la langue?
Quand j'ai décidé de raconter une histoire qui tourne d'abord autour du quatuor de Schubert, je me suis dit, pourquoi ne pas construire tout le livre comme exactement la musique que les personnages vont jouer, et donc ça a été décidé assez rapidement. Donc tous les chapitres, les quatre chapitres, mis à part évidemment le prologue et l'épilogue, sont construits comme un quatuor de Schubert. Et au niveau des phrases, moi je ne cesse de relire à haute voix, et je marche, je relis sans cesse mes phrases à haute voix, et quand quelque chose qui n'est pas encore satisfaisant, je cherche, je rature, je réécris, c'est une histoire que j'ai conçue très très rapidement. L'histoire s'est imposée à moi comme une sorte d'illumination, mais le temps de la réécriture a été extrêmement long, C'est toujours comme ça chez moi.
Alors il y a des portées hein, d'ailleurs qui rythment de temps à autre les péripéties. Il y a toute une série d'œuvres hein, qui sont jouées ou évoquées par vos différents personnages. Et l'une de ces œuvres, c'est une pièce de Jean-Sébastien Bach, la Partita pour violon seul numéro 3. En voici la troisième mouvement, la Gavotte en rondo, jouée en direct dans le studio 31 de RFI par le violoniste japonais Shuichi Okada. La Gavotte en rondo de la Partita pour violon seul numéro 3 de Jean-Sébastien Bach, interprété par Shuichi Okada, qui va nous rejoindre autour de la table du studio de RFI. Pourquoi vous avez choisi de donner autant de place à ce morceau-là dans le roman Akira Mizobayashi?
Alors, je crois que cette musique, on l'entend deux fois dans mon roman. La première fois au moment de l'arrestation des quatre musiciens, quand les soldats de la police militaire arrivent, au moment où le caporal Tanaka, le chef de ce groupe de soldats, procède à, au contrôle d'identité. Et les musiciens disent qu'ils répétaient, qu'ils faisaient de la musique de chambre, et le caporal, le militaire, leur demande une preuve. Et voilà, c'est à ce moment-là que Yu Mizusawa, donc le personnage de père, le professeur d'anglais qui apprend le français, il prend son violon, il prend le violon du second violon, son ami chinois, et il faut que ce soit quelque chose de court, donc il choisit la musique qu'on vient d'entendre, oui.
Et pourquoi vous, vous l'avez choisi, alors, vous, en tant que créateur, en tant qu'écrivain?
Parce que...
Ou en tant que mélomane, peut-être.
La musique de Bach, c'est quelque chose que j'aime infiniment. Et puis, pour la situation, il fallait que ce soit un morceau... un morceau pour violoncelle. Et puis, quand on parle d'œuvres pour violoncelle, on pense tout de suite à la musique de Bach, et en particulier à celui-ci, parce que ce morceau qui dure à peine 3 minutes était tout à fait approprié à la situation.
Alors, je vais vous poser la même question, Fushi Okada, parce que lorsque on a su que vous alliez venir nous rejoindre pour cette émission, vous avez proposé évidemment de jouer un morceau. Vous n'aviez pas lu le livre d'Akira Mizubayashi, et pourtant vous avez choisi précisément ce morceau-là aussi.
Mais c'est vrai que c'est drôle.
C'est très étonnant, quoi. Hasard incroyable. Pour quelle raison?
En fait, comme dans le livre, c'est vraiment la première pièce qui me vient, vraiment naturellement, quoi, sans réfléchir. C'est-à-dire que... bien sûr, la musique de Bach, et puis après, Guermantes au Rondo, ça me paraissait, c'est court, c'est dansant, pour moi, à chaque fois, je choisis celui-là, mais c'est vraiment...
Il y a
vraiment,
un plaisir particulier.
C'est naturel, vraiment, il n'y a aucune réflexion derrière, ça me vient comme ça, voilà.
Alors, c'est vous qui nous avez emmené, en quelque sorte, Fushi Okada, Alain Carbonaré, bonjour. Et merci beaucoup de nous rejoindre. Merci infiniment d'être là. Vous êtes maître luthier. Vous êtes installé à Mirecourt. Mirecourt, c'est dans le département des Vosges, dans l'est de la France. Et on tenait à vous avoir avec vous, avec nous en même temps qu'Akira Mizubayashi, parce que un de ces personnages qu'on découvre dans la deuxième partie du roman est luthier, qu'il a appris son métier à Mirecourt, et que ce livre, c'est aussi un hommage aux luthiers, aux archétiers, à ces métiers qui permettent aux âmes des violons de toucher nos âmes à nous. Et ce que j'ignorais en vous invitant, c'est que vous étiez déjà croisés, vous et Akira Mizubayashi.
On n'en savait rien encore avant cette émission.
C'est totalement...
C'est la magie de la musique et de la littérature.
La magie du violon, parce que c'est vrai que... Bon, moi, j'ai lu ce roman, c'est bouleversant. Les mots sont très justes en ce qui concerne le violon et puis l'histoire aussi. Et puis, qu'un violon soit détruit comme ça par des militaires pour des raisons politiques idiotes, évidemment, ça convient pas avec l'art et avec la musique. Puis ce roman aussi, ça prouve aussi que la musique, c'est bien un langage de paix qui unit les peuples et les hommes. Et Shuichi Okada, j'ai pensé qu'il a gagné un concours international à Mirecourt aussi. Donc ça fait que ici, on est presque en famille, enfin on est même en famille.
Absolument.
Hein, et puis quand on parle du violon, on dit que c'est un des plus bels objets que l'homme a créé. Hein, qu'il est en parfaite harmonie. Et quand on parle d'harmonie, c'est comme un spectacle au regard qui apparaît comme un tout lié au sein duquel la proportion des parties semble répondre à une loi cachée. Et cette loi, le génie de l'homme l'a découverte, elle a appelé le nombre d'or. Et le violon peut, comme les plus belles cathédrales, faire partie du spectacle parfait. Et Mirecourt est une des 3 villes dans le monde à être à l'origine de ce fantastique instrument qu'on appelle le violon, qui est né au XVIe siècle.
Alors Mirecourt, c'est là que vous êtes rencontré pour la première fois. Vous nous racontez dans quelles circonstances, Akira Mizubayashi ?
C'est absolument incroyable. Je suis troublé par le fait que nous nous rencontrons ici. Et parce que il y a un an et demi, je crois que c'était au mois de mars... en 2018, j'avais commencé l'écriture de ce roman et je ne l'avais pas encore terminé. Et comme je savais que le personnage principal se forme à Mirecourt, donc j'ai décidé d'y aller. Et puis j'ai rencontré plusieurs luthiers et dont Monsieur Carbonaré, et c'est avec lui que j'ai conversé le plus longtemps à cette occasion-là.
Qu'est-ce que vous lui avez demandé ?
Je lui ai demandé, c'est la question essentielle pour moi à cette époque que je voulais lui poser et que j'ai posée, c'était un violon totalement détruit par un acte barbare, est-ce qu'on peut le réparer ?
Que vous a-t-il répondu ? Parce que là, on arrive à la base de plus de la moitié du roman.
Oui. Et alors, il m'a dit tout à fait, et tout est possible, même un violon en miettes, on peut le réparer.
Vous l'avez déjà fait, ça ?
Oui.
Repartir quasiment de zéro avec les quelques éléments état qui vous restent.
Oui, un violon en miettes, si quelqu'un veut qu'on le restaure, c'est possible.
Mais c'est possible de retrouver le son de l'instrument initial ou bien c'est un instrument complètement différent que vous allez faire ?
Non, on retrouve les qualités originales d'un instrument. Bon, le métier de luthier est un métier difficile. Le violon est un instrument difficile à fabriquer. Mais il y a des maîtres en Europe et dans le monde entier qui arrivent à restaurer entièrement des violons en miettes.
Qu'est-ce que vous attendez d'un luthier, Shishi Okada ? Comment est-ce que vous fonctionnez avec Alain Carbonaret, par exemple ? Vous lui faites des demandes précise sur les interventions sur l'instrument, vous testez avec lui le violon, il y a des réglages, il y a un aller-retour comme ça en permanence entre vous deux, comment ça se passe?
Oui, avec un luthier, c'est ça, c'est l'échange, moi j'y vais principalement pour régler l'instrument, c'est-à-dire faire des petits réglages et puis voilà, je demande directement au luthier par exemple, je veux pas un son plus clair, je veux plus de puissance, tout ça et puis en fait, on travaille ensemble, ça peut être pendant une heure, voilà, il règle, j'essaye, il écoute.
Alors, un petit élément technique, justement. Si un violoniste vous demande, Alain Carbonaret, un son plus clair, qu'est-ce que vous faites concrètement sur l'instrument ?
Mais ça, c'est l'âme. Hein, l'âme du violon. Tout le monde a déjà entendu parler de l'âme du violon. C'est une petite pièce de bois à l'intérieur du violon qui réunit la table d'harmonie avec le fond, qui n'est pas collé, qui est seulement coincé. Et en tirant l'âme du côté des ouïes, évidemment, bon, là, je parle technique, hein, on va avoir un sentiment extraverti. En poussant l'âme à l'intérieur, on va avoir un sentiment introverti. En éloignant l'âme du chevalet, on va avoir plus de grave. Et en la rapprochant du chevalet, on va avoir plus d'aigu. Mais c'est au dixième de millimètre que ça se passe. Et avec le musicien, l'oreille du musicien, l'oreille c'est toujours le dernier paramètre.
L'oreille c'est la principale qualité d'un musicien sans doute, mais d'un luthier aussi, Alain Carbonaret. Ah
ben évidemment. Évidemment, si le luthier est sourd...
C'est un petit problème.
C'est un petit problème, un gros problème.
Alors, un violon, c'est une pièce unique. On sent vraiment, Kira Mizubayashi, dans ce roman, le lien très particulier hein, qui unit le luthier à ses instruments et à son instrument, en particulier donc celui qu'il a hérité de son père et qu'il entreprend de réparer. Mais j'ai quand même un peu l'impression, en vous lisant, que un même violon appartient d'une façon différente, mais peut-être appartient autant à l'instrumentiste qu'au luthier. C'est un petit peu le sentiment qu'on a en vous lisant.
Oui, je crois que le luthier, c'est celui qui met au monde l'instrument, et puis l'instrument sans l'interprète, sans le musicien, il est dans un état de sommeil, donc il faut absolument les deux. Et même le troisième personnage, qui est le compositeur, et à un moment donné, donc le personnage du grand-père qui apparaît dans la troisième partie, je crois, et il dit à sa petite-fille qui devient violoniste, il faut trois personnes pour que la musique soit possible, et le compositeur, et ensuite l'interprète, mais on oublie trop souvent celui qui fait l'instrument, n'oublie pas. Et c'est pour ça que, avant de mourir, il décide d'aller visiter Mirecourt, dont il avait entendu parler au cours d'une petite conversation qui s'est passée, donc... le dimanche 6 novembre 1938.
Alors Mirecourt, vous le disiez tout à l'heure, Alain Carbonaret, c'est l'une des capitales mondiales du violon. Vous disiez qu'il y en a deux autres, alors peut-être les citer quand même.
Oui, c'est Cremone en Italie, la ville de Stradivarius, hein, et puis Füssen en Bavière. Voilà, les trois villes qui, au XVIe siècle, donnent naissance, d'après l'histoire, donc à ce fantastique instrument qu'on appelle le violon.
Oui. Donc Mirecourt, c'est là que vous officiez, c'est la patrie de Jean-Baptiste Vuillaume, et Mirecourt abrite encore aujourd'hui combien de luthiers à peu près ?
Alors, disons qu'il y a 50 personnes qui vivent de la lutherie à Mirecourt, sur une dizaine d'ateliers.
Et puis il y a aussi le musée de la lutherie à Mirecourt.
Il y a surtout l'école internationale qui forme des luthiers du monde entier. Mais Mirecourt, au XIXe siècle, dominait le monde entier. Il y avait 2000 ouvriers luthiers, 600 ateliers, 80 000 violons par an, certaines années, au 19e siècle. Et dans toutes les grandes capitales du monde, que ce soit New York, Londres, Moscou, Saint-Pétersbourg, les plus grands luthiers au 19e siècle viennent de Mirecourt. Et encore récemment, il y a une dizaine d'années, le plus grand luthier de New York était un luthier de Mirecourt. Hein, donc, Mirecourt a une renommée. Bon, comme le dit le livre, c'est un peu tristouné en ce moment, mais on est quand même au rendez-vous de tous les grands, de tous les grands projets internationaux. Et on a eu Yehudi Menuhin. Bon, moi, j'ai eu la chance de travailler avec Yehudi Menuhin. Et c'est vrai que il me disait.
Il apparaît dans mon livre. Oui.
Absolument.
Et il joue la gavotte en rondo.
Aussi, vous voyez.
Et moi, quand il essayait des violons, c'était cette gavotte en rondo qui jouait. Donc, vous voyez, de Jean-Sébastien Bach. Et Yehudi Menuhin me disait, ce soir, je vais jouer ton violon, c'est ton enfant. Mais après, c'est ma femme. Hein? Donc, vous voyez, les musiciens ont un respect vis-à-vis du luthier. C'est vraiment, nous, c'est nos enfants. Les instruments qu'on fabrique, c'est nos enfants.
Respect vis-à-vis du luthier, amour du violon, amour de la musique et histoire extrêmement glorieuse, comme vous le disiez à l'instant à Mirecourt, Alain Carbonaré. Et cette histoire, cet amour, eh bien, le musée de la lutherie essaie de le communiquer, de le faire revivre aujourd'hui à ses visiteurs. Notre reporter Fanny Blechner s'y est rendue pour nous.
Le musée propose d'abord trois espaces permanents. Le premier est consacré à l'histoire de la ville qui est fortement liée à l'apparition de la lutherie au XVIIe siècle. Valérie Klein est la conservatrice du musée.
Les archives sont lacunaires, on n'est pas dans les Vosges de la forêt, donc a priori c'est pas parce qu'il y a du bois sur place. Donc on suppose que Mirecourt étant une ville à la fois administrative, puisqu'à l'époque on est dans le duché de Lorraine, on n'est pas en France, mais surtout une ville de négoces et d'artisanat, que c'est les voyages, les marchands qui ont peut-être rapporté dans la valise un instrument ou qui avait besoin de monnaie d'échange ou d'objets d'échange.
Après les artisans, à partir du milieu du 19e, des manufactures s'installent à Mirecourt avec pour objectif de fabriquer plus vite et à moindre coût. Le travail est divisé en plusieurs étapes. Ces étapes de fabrication, on les retrouve au rez-de-chaussée du musée. Autour d'un établi sensoriel, le visiteur est invité à toucher le bois. Un peu plus loin, c'est Louis qui est sollicité. L'exposition actuelle propose un parcours dans l'histoire de la lutherie et de la musique. À chaque fois dans la vitrine, un instrument, un archet et de la musique à écouter au casque. Ce sont de grands violonistes qui sont venus jouer à Mirecourt. Valérie Klein nous raconte l'histoire de l'un des violons présentés.
Le violon de Nicolas Lupeau, qui est un instrument à la fois assez prestigieux de la collection du musée, mais qui est un instrument aussi qui a beaucoup souffert, puisqu'il a été défenestré. Il faisait partie des violons du roi lors de la révolution de 1848. Tous ces fragments ont été recueillis, recollés. L'instrument s'est transmis dans un atelier parisien et c'est Étienne Vatelot qui l'a offert au musée. Donc c'est un instrument à la fois émouvant de par son histoire et riche aussi de la main qui l'a fabriqué.
Une observation attentive permettra de faire la différence entre deux violons. Plus difficile peut-être à distinguer l'évolution des archets. Le musée revient sur l'histoire d'une famille d'archetiers de Mirecourt, la famille Bazin.
Avec quatre générations d'archetiers, avec chacun leur spécificité. Nous avons pu apprécier tout ça lors d'une expertise de la collection d'archets de la famille. Peu de gens savent que c'est un métier à part entière, l'archetier. D'ailleurs, c'est Charles Bazin, le dernier archetier de la famille qui a fait entrer ce mot dans le dictionnaire de la langue française. À Mirecourt, on résume un peu les choses en disant si Crémone a fait classer au patrimoine mondial de l'UNESCO la fabrication du violon, alors Mirecourt devrait faire classer au patrimoine mondial de l'UNESCO la fabrication des archets. Les grands archetiers connus mondialement, en tout cas au 19e et jusqu'au début du 20e, ils étaient tous originaires de Mirecourt.
Ces instruments fabriqués à Mirecourt, on peut les observer également à l'étage. Loin des quatuors classiques, différents ensembles contemporains autour d'instruments à cordes sont présentés. L'un d'eux particulièrement étrange attire l'œil.
La nickel harpa, c'est donc un instrument à cordes frottées qui se joue avec d'un clavier. C'est un instrument de tradition suédoise. dont un luthier de Mirecourt est tombé amoureux, je pense, il y a une trentaine d'années, peut-être 40 maintenant. Et aujourd'hui, cet instrument, il est fabriqué à Mirecourt et apprécié et vendu, je pense, en Europe, voire dans le monde entier.
Le visiteur pourra ensuite découvrir des guitares romantiques ainsi qu'une contrebasse, à chaque fois des vidéos, de la musique et une véritable expérience. Un violon, un alto, une guitare, une mandoline sont mises à disposition du visiteur qui peut lui aussi s'y essayer avec plus ou moins d'aisance.
Reportage de Fanny Blechner, envoyée spéciale de VMDN à Mirecourt. Alors un instrument, vous en avez un devant vous, Shuichi Okaida, oui. C'est évidemment votre violon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, nous le décrire? On n'a pas l'image évidemment à la radio, mais oui. Faites-nous découvrir notre violon avec vos mots, un peu comme si vous étiez Akira Mitsubayashi.
Je vais faire mon mieux du coup. Alors c'est un violon moderne. C'est pas mon violon, on me le prête actuellement, et c'est un violon de Charles Coquet, c'est un luthier parisien.
Qui n'est pas de Mirecourt, ce
qui n'est aussi. Pas de Mirecourt. Mais voilà, c'est un super violon, j'aime beaucoup le son, c'est très clair. Puissant aussi, il a beaucoup de qualité, quoi. Et puis, pour l'instant, ça fait 2 mois que je le joue, à peu près, et puis j'en suis très content. Puis bientôt, je vais avoir un autre violon, normalement, du coup, j'attends. J'attends encore, je le garde encore un mois, je pense, maximum, quoi. Je vais bientôt le quitter.
Donc, quand vous quittez, qu'est-ce que vous allez faire de ce violon? Que va-t-il devenir?
Le violon, je vais
votre vie après vous?
Je vais le rendre à son propriétaire, qui va le rejouer sûrement. Mais voilà, c'est bientôt fini, quoi, notre voyage ensemble.
Vous êtes mélomane, Akira Mitsubayashi. Est-ce que je peux demander si vous êtes aussi musicien et si vous êtes singulièrement violoniste?
Non, je ne suis pas du tout musicien. Mon père nous a initié, mon frère et moi, à la musique, et puis mon frère a fait du violon et moi j'ai fait du piano pendant quelques années, mais je me suis arrêté au bout de quelques années. J'en ai fait pendant 5 ans, je crois, et par contre mon frère a continué. Et donc j'ai toujours entendu mon frère jouer du violon à la maison. Et donc le violon, c'est un instrument qui m'est extrêmement cher. C'est un peu le violon, c'est mon frère. Et mon frère a eu cet instrument magique grâce à mon père. Donc j'ai mon frère a eu le violon et moi j'ai eu la langue française comme instrument de musique.
Voilà, c'est vrai que la musique, Alain Carbonaret, c'est souvent une affaire de famille. On transmet souvent cette passion de père en fils ou de père en fille, puisque je crois que votre fille est aussi luthière.
Oui, ma fille qui vient d'avoir 19 ans a fabriqué déjà 8 violons. Et son précédent, son numéro 7, a quand même été retenu par la Fondation Spivakov et par Vladimir Spivakov, qui est une légende du violon. Donc, ça promet. J'ai aussi un fils, Antoine, qui a 30 ans, qui a déjà aussi des instruments à l'Orchestre de Berlin. Enfin, bref.
C'est un métier qui se transmet de père en fils. Comment vous l'avez appris déjà, vous-même, ce métier de luthier?
Moi, je l'ai appris parce que c'était ma passion. Quand j'étais adolescent, je fabriquais des guitares pour jouer les Beatles. Mais bon, c'est les années 60 quand même, hein. Moi, je suis plus si jeune que ça, hein. Donc, et puis, un jour, je suis allé voir Yehudi Menuhin en concert. Et puis, je lui dis, je fabrique des guitares comme ça. J'étais un gamin de 15 ans. Et puis il me dit, mais il faudrait que tu fabriques un jour des violons. Et 27 ans plus tard, il jouait sur un de mes violons.
Voilà. Yehudi Menuhin. Mais alors, comment est-ce que vous êtes passé de la guitare au violon? C'est pas uniquement parce que Yehudi Menuhin vous a incité à le faire.
Oui, c'est toujours des clés, des moteurs, hein, des inspirateurs, enfin des gens qui inspirent quand même. Et puis bon, quand on parle du violon, on parle du roi des instruments. Et moi, j'avais envie de fabriquer le roi des instruments.
Comment vous avez appris?
On va dire que je suis autodidacte, hein. Et puis mon père était ébéniste, mon grand-père aussi, ma grand-mère était concertiste au violoncelle. Donc je suis déjà dans une famille de musiciens. Moi-même, j'ai été pianiste professionnel, hein. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de tournées internationales. J'ai aussi la chance d'avoir été lauréat au Grand Prix du disque de Montreux. Mais ma passion, ça a toujours été de fabriquer des violons. Donc, moi, je dis ici à la radio, quand on veut quelque chose, on peut.
Qu'a-t-il de spécifique un violon de Mirecourt?
Alain Carbonari.
Ah, il y a une tradition à Mirecourt de 400 ans, quand même. Hein. Et puis, on a eu, en 1798, la naissance d'un Jean-Baptiste Villaume, qui est né d'une famille déjà qui existait au XVIIe siècle. Et ce Jean-Baptiste Villaume a sublimé la fabrication du violon. Il a sublimé Stradivarius. Bon, tout le monde a déjà entendu parler de Stradivarius. C'est celui qui, en 1700, à Cremone, en Italie, met la perfection dans le violon au niveau artistique, scientifique et métaphysique. Il y a avant Stradivarius et après Stradivarius. Encore aujourd'hui, quand on veut faire un bon violon, on utilise les principes de Stradivarius. Et Jean-Baptiste Villaume a sublimé Stradivarius à tel point que des instruments ont été confondus. Hein, et Jean-Baptiste Guillaume était aussi le luthier de Paganini, de Berlioz, etc., etc.
Alors donc, vous avez, je crois, récemment, et de façon presque par hasard, quoi, retrouvé des documents anciens qui appartenaient
à Guillaume. Il y a 30 ans, quand je me suis installé à Mirecourt, j'étais passionné par l'histoire, et un jour, j'ai acheté une vieille ruine dans une rue que la mairie allait détruire pour faire un parking. Et en faisant des travaux moi-même dans cette maison, dans un mur, je trouve des plans de violon, des recettes de vernis, et c'est signé Jean-Baptiste Villaume. Je vois aussi des plans marqués Stradivarius, tout ça. Je vais aux archives départementales, c'était la maison familiale de Jean-Baptiste Villaume.
Vous voyez comme le hasard fait bien les choses. Hein. Clin d'œil du destin, vous étiez fait pour ce métier, Alain Carbonari.
Ouais, merci.
Alors c'est presque un thème de roman, finalement, cette trouvaille dans cette vieille ruine, comme vous dites. Votre roman à vous, justement, Akira Mizubayashi, je le disais en commençant cette émission, il est vraiment extrêmement émouvant. Il est écrit dans une langue absolument pure, une langue qui rappelle peut-être également, effectivement, le son du violon, la reconstruction de l'âme brisée, hein, pour reprendre le titre, la reconstruction de ce violon détruit. C'est la reconstruction d'un instrument de musique, c'est aussi de la reconstruction d'une vie.
Oui, c'est un roman sur la réparation, sur la reconstruction, sur la résilience, sur la transmission, c'est surtout ça, je crois. Ouais.
Un livre extrêmement émouvant, je le répète, que trois de nos auditeurs vont pouvoir gagner en répondant sur notre page Facebook en message privé à la question du jour. La voici. Qui est le compositeur du morceau que Shuichi Okada nous a joué tout à l'heure en direct il y a quelques minutes, morceau qui est au cœur du livre, donc c'est le nom du compositeur. J'attends évidemment toutes vos réponses, rendez-vous sur notre page Facebook sur laquelle vous pourrez aussi découvrir dans quelques heures Alain Carbonari nous parler du violon qu'il a apporté avec lui et de son métier. Merci infiniment à tous les trois, Shuichi Okada, Alain Carbonari, Akira Mizubayashi, âme brisée, je le répète, chez Gallimard. Et félicitations aux deux gagnants du jeu d'hier, Keina Hoff d'Oslo en Norvège et Rabia Gezou qui habite Béjaïa en Algérie.
C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter.
Le déserteur, évidemment, un grand titre de Boris Vian, interprété cette fois-ci à Napilo par le groupe français Debout sur le Zinc. Bonjour Alain.
Bonjour Jean-François, bonjour Akira Mizubayashi, bonjour Alain Carbonari et Shuichi Okada.
Debout sur le Zinc, revisite donc Vian à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance cette année, hein, sur disque, sur scène, un projet que l'on doit à cette formation, mais aussi à Françoise Canetti.
Fille du fameux Jacques Canetti, créateur des productions Canetti, qui apporta son soutien notamment à Édith Piaf, Charles Trenet, au frère Jacques, à Charles Aznavour, Jacques Brel et bien sûr Boris Vian. Vian qui interpréta pour la première fois au Trabaudet à Paris, encouragé par le fondateur de cette salle, Jacques Canetti, encore lui, où se produira Debout sur le Zinc le 26 septembre. Mais à quelle époque Vian fout-il précisément pour la première fois les marches des Trabaudet, Françoise Canetti?
Le 1er janvier 1955, sur la scène du théâtre des Trabaudet, dans un spectacle qui s'appelle Les Carnets du Major Thompson, Boris Vian chante 4 chansons en première partie. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas facile pour Boris, parce que ce n'est pas du tout un homme de scène, c'est un auteur, c'est parfois un compositeur, ce n'est pas un interprète. Et je crois qu'il va beaucoup souffrir de ne pas avoir cette facilité. Debout sur le Zinc, notamment.
Françoise Canetti, vous venez de l'entendre, qui ne tarit pas d'éloges à l'égard du groupe de Simon Mimoun, qui est au chant, mais au violon aussi. Ce dernier nous raconte en quoi cette aventure fut un défi pour eux.
Curieusement, c'est musicalement que ça a été un défi pour nous, parce que Boris Vian était un amoureux du jazz, et nous, on n'est pas un groupe de jazz. On adore la musique, on adore toutes les musiques, le jazz y compris, mais il y avait quelque chose de complexe dans les chansons, et nous, on allait chercher à les simplifier pour rendre le, et à conserver le propos, évidemment, donc on se les est appropriés plus du côté de la chanson, du rock et de la musique qu'on sait faire finalement.
Assez la valse par exemple.
La valse ou le folk, voilà. Et plus que du côté du jazz. Donc c'était ça le défi pour nous, c'était de simplifier, de rendre audible toute la complexité de ces chansons.
L'année passée, c'était beaucoup plus calme, mais cette drôle d'année renversée ne manque pas de charme. Décembre dépassé, novembre a commencé.
Debout sur le zinc, l'année à l'envers sur une valse.
De Jimmy Walter, l'un des compositeurs de Vian, pour Simon Mimoun, interpréter les chansons de Boris Vian, c'est nager dans sa pensée, c'est goûter à ses tensions, mais encore.
Une chanson, quand on l'interprète sur scène, en l'occurrence, nous, notre credo, c'est la sincérité. Et donc on se plonge dans le souvenir, dans l'émotion du moment. Et Boris Vian, c'est vraiment quelqu'un de particulier. Il savait qu'il allait mourir, il n'était pas dans le déni de la mort. Et il n'était pas non plus sombre, il était vraiment dans l'amour de la vie le plus total, extrêmement ouvert, et du coup ça donne une tension entre cette urgence et cet amour de la vie. En fait, on ressent l'urgence de la vie quand on les chante, ces chansons, et on est submergé. Moi, à chaque fois que je les chante, ces chansons sur scène, je suis fatigué, pas parce que c'est physique, mais je suis éprouvé à la fin du spectacle, toujours. Je termine par vous, je voudrais pas crever, juste, ouais, mais c'est pas de la tristesse, c'est vraiment de l'intensité.
Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir.
Je voudrais pas crever, debout sur le zinc, qui se réapproprie Vian sur une musique inédite.
Signé par le Septet lui-même, mais quid de l'écriture de Vian?
Elle est particulière dans le sens où il écrit sur tout et n'importe quoi. Et il peut écrire sur tout et n'importe quoi.
Un réfrigérateur,
oui. Mais il peut aussi écrire sur des sujets extrêmement importants comme le déserteur. Il peut écrire sur une rue qui s'appelle la rue Watt et les sensations que ça lui procure. Il peut écrire absolument sur tout. Et il a plusieurs... il peut être très poignant, très, très sombre et très, très joyeux. Enfin, c'est comme nous. C'est pour ça qu'il y a une filiation entre Boris Vian et Debout sur le zinc, c'est qu'il est très éclectique au niveau de ses goûts, au niveau de ses sujets, voilà. Et c'est là-dessus qu'on se retrouve. Il nous a suivi à peu près toute notre vie de groupe, Boris Vian.
Lorsque j'y ai été pour la première fois, c'était en février, mais il faisait pas froid. Les clochards somnolaient sur les grilles fumantes et les moulins tournaient dans la nuit murmurante. J'étais avec Raymond qui m'a dit: mon colon, il faut que tu constates, y a rien comme la rue Watt.
De Boris Vian, rue Watt, composé par Yves Gilbert et donc interprété ici par Debout sur le zinc.
Dans l'œuvre de Vian, Je suis snob est certainement la chanson la plus connue. À ce propos, qu'est-ce qu'être snob en 2019, Françoise Canetti et Simon Mimoun?
C'est ne pas aimer Debout sur le zinc.
très bonne réponse, je n'ai pas mieux.
Merci à tous les deux.
Je suis snob, je kiffe grave.
Debout sur le zinc, Juste Snob de Boris Vian, extrait de l'album Debout sur le zinc, chante Vian. Ils seront en concert entre autres le 20 septembre à Oyonnax dans l'Ain, le 26 au Trois-Baudets à Paris, où Vian d'ailleurs fit ses débuts, le 27 à Aubergenville en région parisienne, le 28 au Poncé dans l'Aisne, ou encore à Dax dans le département des Landes le 5 octobre prochain. Merci Alain. Demain, BD dans VMDN avec Nina Antico et Grégoire Carlet pour Il était deux fois Arthur chez Dupuis, et vous m'en direz des nouvelles.
On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire du snobisme particulier.